Merci Seigneur Esprit Saint de venir sur notre assemblée dans nos cœurs pour ouvrir nos cœurs à la parole du Christ, pour ouvrir nos cœurs à l'action du Christ dans cette assemblée, dans nos vies. Merci Seigneur Esprit Saint, toi qui ouvres la porte au Christ pour qu'il vienne changer nos vies. De l'Évangile selon Saint Matthieu au chapitre 16, versets 1 à 4. Les pharisiens s'approchèrent alors et lui demandèrent, pour le mettre à l'épreuve, de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit : au crépuscule, vous dites, il va faire beau temps car le ciel est rouge feu, et à l'aurore, mauvais temps aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Ainsi, le visage du ciel, vous savez l'interpréter, mais pour les signes des temps, vous n'en êtes pas capable. Génération mauvaise et adultère, elle réclame un signe, et de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Et les laissant là, il s'en alla. Voilà, j'ai choisi ce texte qui peut paraître un peu rébarbatif par rapport à la guérison, puisque le Seigneur la refuse de donner un signe aux pharisiens et aux sadducéens qui lui demandent un signe. Mais il faut resituer ce passage dans son contexte. Dans l'Évangile, quand on lit un passage, il faut toujours le resituer dans son contexte. Et le contexte de ce passage, c'est que Jésus vient de faire plusieurs guérisons, de nombreuses guérisons, et il vient aussi de multiplier les pains. Donc Jésus vient faire beaucoup de guérisons, il a fait une multiplication des pains, il a fait plein de miracles. Et voilà que les pharisiens et les sadducéens demandent encore un signe au Seigneur pour bien prouver, pour qu'il prouve qu'il est le Christ, qu'il est envoyé du ciel. Et donc, il n'y a pas besoin d'être très futé pour comprendre que s'ils demandent encore un signe, c'est que Jésus peut encore faire un signe, et encore un signe, et encore un signe, qu'ils ne croiront toujours pas. Il y a parfois des personnes comme ça qui demandent toujours un signe de plus, de plus, de plus, mais à un moment donné, Seigneur, il arrête parce que de toute façon, on peut faire tous les signes qu'on veut, on ne croira pas. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un signe, ça reste un signe. C'est-à-dire un signe, c'est quelque chose qui m'aide à poser un acte de foi. Mais si je pose un acte de foi, je dois avancer dans la confiance. Un signe, ce n'est pas comme une démonstration mathématique. Une démonstration mathématique, vous faites la démonstration, toute personne qui connaît les mathématiques adhère à votre démonstration. Ce n'est pas un acte de foi, c'est une évidence. La démonstration est juste. Un signe, ça demande de poser un acte de foi. Je vois une personne guérie, je dois croire, puisque c'est Jésus qui l'a guérie à ce moment-là, que c'est Dieu qui l'a guérie à travers Jésus. Mais je pourrais tout aussi bien inventer d'autres raisons. Croire que, comme je l'ai lu une fois sur Internet, dans un livre, il y a une personne qui écrit que s'il y a des guérisons à Saint-Nicolas, parce que c'est les forces telluriques qui agissent. Il y en a qui croient que c'est les forces telluriques. Moi, je ne peux pas lui prouver que ce n'est pas les forces telluriques, mais moi, je sais par la foi que c'est Dieu. Donc, il y a un signe de guérison. Ceux qui ne veulent pas croire vont trouver d'autres explications. Par exemple, j'avais vu une émission sur Lourdes, et il y avait un médecin qui appartenait au Conseil de l'Ordre des médecins. On lui pose la question, les guérisons à Lourdes, pour vous, c'est des miracles ou pas ? Et il répond, moi je pense qu'on peut guérir instantanément de n'importe quoi. On peut guérir instantanément de n'importe quoi, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de miracle, c'est sûr. Mais est-ce que c'est vraiment scientifique de poser cette affirmation ? Est-ce que c'est digne d'un médecin ? Je ne suis pas sûr. On peut guérir instantanément d'une surdité quand on a été sourd toute sa vie. On peut guérir instantanément de quelque chose quand le membre est cassé. Scientifiquement, ça ne tient pas vraiment la route. Mais ce qui est sûr, c'est que personne ne pourra obliger ce médecin à croire qu'il y a des miracles à Lourdes. On pourra toujours dire, par exemple, dans les hôpitaux, il y a parfois des guérisons spontanées, ce qui est vrai, parfois des guérisons surprenantes dans les hôpitaux. Maintenant, il se trouve qu'à Lourdes, il y en a beaucoup. La prière des malades ici, il y en a des centaines chaque année. Alors on se demande pourquoi les gens guérissent à Saint-Nicolas-des-Champs et pas pendant un match de foot. Parce que s'il y a des guérisons spontanées, on pourrait imaginer aussi qu'il y en ait pendant un match de foot. Mais pendant les matchs de foot, je n'ai pas entendu de guérison spontanée. Donc il y a quand même un petit peu de bon sens pour voir les choses, mais n'empêche qu'il y a toujours finalement un acte de foi à poser, que c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui vient nous sauver. Dieu fait exprès de faire des signes, simplement des signes, pour que la foi soit un acte de confiance. Autrement dit, la foi n'est pas une évidence. Si c'est une évidence, ça veut dire que je vois les choses, je n'ai pas besoin de croire. Ce qui est évident, je n'ai pas besoin de le croire. Je vois une voiture qui passe devant moi, ben je la vois, je n'ai pas besoin de croire que la voiture passe, c'est une évidence, je la vois avec mes yeux. Par contre, on me raconte quelque chose qui s'est passé je ne sais pas où, bon ben là, il faut que je croie la personne pour adhérer à ce qu'elle me dit, je ne l'ai pas vu de mes yeux. Donc quand quelqu'un guérit, nous voyons bien la guérison de la personne, même si elle est instantanée, mais nous ne voyons pas l'action de Dieu, nous ne savons pas comment Dieu l'a guérit. Donc ça demande toujours un acte de foi. Alors pourquoi les pharisiens et les sadducéens ne veulent pas poser cet acte de foi ? Eh bien c'est parce que leur cœur est fermé. Il y a un mystère qui fait que leur cœur est fermé. Ils ne veulent pas ouvrir leur cœur au Christ. Peut-être qu'ils s'attendaient à un autre Christ, peut-être qu'ils attendaient un Christ glorieux, peut-être que Jésus ne correspond pas à leur attente, probablement. Mais en tout cas, ils ne veulent pas croire, et beaucoup d'entre eux, malheureusement, ne croiront pas, même lorsque Jésus sera ressuscité et qu'il ne sera plus dans le tombeau. Ils paieront les gardes du tombeau, les prêtres du temple, pour qu'ils racontent que quelqu'un a volé le corps de Jésus. Donc, ils arriveront toujours à trouver des choses pour ne pas croire. Alors, Jésus leur répond. Donc il ne fait pas de signe, parce qu'il sait que ça ne sert à rien. Au crépuscule, vous dites, il va faire beau temps, car le ciel est rouge feu. Et à l'aurore, mauvais temps aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Ainsi, le visage du ciel, vous savez l'interpréter, mais les signes des temps, vous n'en êtes pas capable. Donc c'est pas très compliqué à comprendre. En tout cas, la première partie de la phrase... C'est que quand on voit le ciel avec des nuages, par exemple, on voit bien qu'il va pleuvoir. Tout le monde est capable de le dire. Pourtant, il ne pleut pas encore. Donc on peut interpréter ces signes comme étant la venue du mauvais temps, des nuages, du beau temps quand on voit les nuages partir. Voilà. Donc dans le ciel, on peut interpréter ce qui va se passer dans le futur, les signes des temps. Maintenant, Jésus dit, est-ce que dans ce que je fais, vous êtes capable d'interpréter ce que ça signifie ? Vous n'en êtes pas capable. Les signes des temps, eh bien, c'est ce que je suis en train de faire. Ce sont des signes, ce sont des guérisons, ce sont des miracles. Vous n'êtes pas capable d'interpréter à travers ces miracles que Dieu vient sauver son peuple, que Dieu vient au secours de son peuple, que les temps messianiques sont arrivés, que le Messie est arrivé. Vous n'êtes pas capable d'interpréter cela alors que le ciel, vous êtes les rois pour comprendre ce qui va se passer. Alors, le Concile Vatican II, donc ce concile qui s'est tenu au début des années 60, parle aussi des signes des temps et nous demande, nous-mêmes, chrétiens, d'être à l'écoute des signes des temps. Donc les guérisons qui sont en train de se dérouler à Saint-Nicolas-des-Champs sont des signes du Seigneur pour notre temps. Par exemple, la vidéo qui présente cette guérison, elle a été vue 600 000 fois, bon, plus de 600 000 fois. Bon, ben, y en a qui vont trouver ça... Ils vont adhérer à cette prière juste en voyant la vidéo. J'ai reçu des lettres de personnes qui m'ont dit, j'ai regardé la vidéo, je reviens à l'église parce que je m'aperçois que Dieu est en train d'agir. Donc je reviens à l'église. Et puis il y a des gens qui vont regarder cette vidéo, ils ne vont pas percuter, ils ne vont pas voir là un signe des temps, un appel à la conversion. Ces derniers temps, on parle à tout bout de champ du coronavirus, partout, enfin, dans les actualités. Dès qu'il y a quelqu'un qui meurt, enfin, ça fait un article, alors effectivement c'est un événement, c'est une épidémie. Est-ce qu'on est capable de lire dans ce phénomène un signe des temps ? Alors attention, quand il y a des épidémies et des tremblements de terre, Jésus nous dit « n'ayez pas peur ». Parce que justement, ces tremblements de terre nous disent que nous sommes dans le temps de la fin, le temps de la venue du Christ. Mais n'ayez pas peur, un chrétien n'a pas à avoir peur dans ces circonstances-là. D'ailleurs, « n'ayez pas peur », c'est la phrase que Jésus reprend le plus souvent dans l'Évangile. Alors, quels signes des temps pouvons-nous reconnaître à travers ce coronavirus ? Je ne prétends pas imposer mon interprétation, ce n'est pas forcément simple, Et moi, personnellement, j'y vois un cri de Dieu pour nous dire, voilà, vous travaillez, vous allez en vacances, vous faites plein de choses, et bien moi, je vais mettre un petit grain de sable dans votre histoire pour qu'à un moment donné, vous aperceviez que la vie terrestre, c'est pas tout. Et donc, ce coronavirus, qu'est-ce qu'il fait ? Il va faire que ça fout un peu le bazar pendant un certain temps. Et du coup, ceux pour qui il n'y a que le travail, que les vacances, que ce que je vais manger, que ce dont je vais m'habiller, à tout à coup, tout cela va être un peu perturbé, au moins pendant un petit temps. Et donc, à travers cela, le Seigneur est en train de nous dire, il me semble, est-ce que vous pensez un petit peu à autre chose ? Est-ce que vous œuvrez votre cœur vers le ciel ? Est-ce que vous vous rendez compte que la vie terrestre, elle est limitée ? Vous n'y passerez qu'un temps. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes fragile ? Une simple épidémie peut vous emporter du jour au lendemain, enfin, en peu de temps. Est-ce que vous vous rendez compte de tout cela ? Et là, l'humanité découvre qu'elle porte au fond d'elle-même beaucoup d'angoisse. Il y a beaucoup de gens qui sont angoissés à cause de cette épidémie. Ils sont angoissés. Oui, ben nous avons tous en nous des angoisses. Eh bien, c'est le moment de nous tourner vers Dieu pour demander au Seigneur, « Seigneur, donne-moi la paix, viens m'apaiser dans mes angoisses. Viens me donner la paix, que j'ai confiance en toi, Seigneur. Je sais que tu vas me protéger, je sais que tu vas protéger ma famille. » C'est le moment de se tourner vers le Seigneur. Et nous devons prier pour que ceux qui ne prient jamais, eh bien, peut-être que ce soit pour eux l'occasion, parce qu'ils sont angoissés peut-être, de se tourner vers le Seigneur et de demander sa grâce. Nous, en tant que chrétiens, on n'a pas à nous réjouir qu'il y ait une épidémie. Dieu ne veut pas punir les gens pour... Notre Dieu est un Dieu d'amour et de miséricorde, il ne veut pas faire souffrir le monde. Ce qu'il veut, c'est qu'on se tourne vers lui, simplement. Il nous appelle, à travers les événements, à travers les signes des temps, à nous tourner vers lui avec confiance. Et dans cette prière, le Seigneur, justement, nous montre qu'il nous aime et qu'il nous donne beaucoup de grâce. Et sans cesse, il nous montre son amour en espérant que nous allons nous convertir. Vendredi dernier, il y avait une femme qui racontait à tout le monde dans cette église, elle était pleine de joie parce qu'elle était venue jeudi à la prière des malades, jeudi dernier, avec son enfant qui est épileptique. Il a ce qu'on appelle des absences épileptiques. C'est une maladie que je ne connaissais pas. Ça veut dire que dès qu'il voyait un point lumineux, il avait, comme a dit cet enfant qui a 7 ans, il buguait. Donc il buguait. Donc ça veut dire qu'il partait dans le vague, son esprit partait dans le vague. Il ne tombait pas par terre, il partait dans le vague. Ça pouvait lui arriver beaucoup de fois dans la journée, peut-être plus d'une centaine de fois dans la journée. Donc cet enfant, il buguait tout le temps. Et récemment, on a entendu parler d'un enfant australien dont les autres, les petits camarades se moquaient de lui parce qu'il est de petite taille. Eh bien cet enfant, ses camarades se moquaient aussi de lui. Parce que comme il buguait régulièrement, les enfants entre eux, vous savez, sont parfois assez durs, ils ne savent pas avoir compassion les uns des autres. Donc ses camarades se moquaient un peu de lui. Eh bien, le Seigneur l'a guéri. Après la prière des malades, il ne buguait plus. Et donc sa mère, elle était tellement heureuse qu'elle racontait à tout ça aux personnes dans l'église vendredi dernier. Elle n'habite pas à Paris. Donc elle me dit que quand elle reviendra à Paris, elle viendrait témoigner. Bon, j'espère qu'elle n'oubliera pas. Mais en tout cas, elle était dans une joie incroyable avec la grand-mère de cet enfant qui avait vu la vidéo sur Internet. C'est la première fois qu'il venait à Saint-Nicolas. Et Jésus eut pitié de cet enfant, d'une part parce qu'il était malade, et peut-être aussi parce que ses camarades se moquaient de lui. Donc maintenant, il va pouvoir dire à ses camarades qu'il est en bonne santé et il va pouvoir être respecté par ses camarades. Alors maintenant, je vais aussi vous donner le témoignage de Marie, un témoignage très simple. « Bonjour, il y a 2 ans environ, j'ai assisté à la prière le jeudi, et lorsque le Saint-Sacrement est passé devant moi, j'ai vu le visage de Jésus dans l'hostie. J'ai été très impressionné et je me demandais pourquoi. Je comprends au fil du temps le chemin que je fais vers Dieu chaque jour. Il me demande de lui faire confiance, de me reposer en lui. J'ai beaucoup grandi dans ma foi depuis ce jour béni, Marie. » Voilà. Parfois, quand le Saint-Sacrement passe, bon, ça reste un phénomène qui est un peu rare, il y a parfois des gens qui voient le visage de Jésus dans le Saint-Sacrement ou une lumière qui sort du Saint-Sacrement. C'est une manière de Jésus pour nous dire, voyez le Saint-Sacrement, ce pain qui était consacré à la messe, c'est vraiment moi. C'est moi, c'est pas un objet. C'est plus du pain, ou plutôt c'est le vrai pain, parce que je suis le pain véritable, dit Jésus, et ce pain, c'est moi. ont cette grâce d'avoir un signe du Seigneur qui leur dit, ben, le Saint-Sacrement, c'est vraiment moi. Quand vous me recevez à la messe, dans l'hostie, c'est vraiment moi. Quand vous m'adorez, je suis là devant vous. Merci Marie pour ce témoignage. Témoignage d'Éric. Je souhaiterais témoigner d'une guérison survenue le 20 septembre 2018 suite à un drame familial survenu en février 2017. Le décès de ma conjointe qui m'a laissé seule avec un enfant de 3 ans à l'époque. Voilà, le pauvre papa qui se retrouve avec un enfant de 3 ans tout seul pour l'éduquer, sachant qu'il a son travail à côté, donc ça devait être quand même assez compliqué pour ce père de famille. Donc, il dit ensuite, j'ai vécu en 2018 une longue période de déprime. J'avais de nombreux symptômes, l'épuisement, la perte du goût de la vie, la crainte de ne pas pouvoir me lever le matin, de travailler et surtout de m'occuper de mon fils. J'ai été pris en charge par mon médecin qui m'a arrêté et envoyé passer quelques jours à la campagne chez mon frère. Celui-ci est revenu avec moi à Paris et m'a emmené assister à la prière des malades. Lors du passage du Saint-Sacrement, j'ai eu ma respiration qui s'est accentuée sans que je le veuille. C'est une manière de respirer qu'on m'a conseillé de pratiquer dans mon cas. Je suis ressorti de l'église rassérénée, donc il y a eu ce petit phénomène un peu subtil, qui n'avait rien d'extraordinaire, si j'ose dire, simplement sa respiration s'est mise à être plus forte. Simplement, il est ressorti de l'église rassérénée, et le lendemain, il voyait son médecin, et son médecin a, dès le lendemain, mis fin à son arrêt maladie. C'est-à-dire que le lendemain, il était déjà complètement rétabli, après juste cette venue à Saint-Nicolas-des-Champs. Le jour, il précise, le jour de la cérémonie de la prière des malades, j'étais encore incapable de faire quoi que ce soit malgré mon repos à la campagne. Donc il était encore complètement lessivé quand il est venu à la prière des malades. À partir du lendemain, j'ai vu mes forces revenir rapidement. J'ai repris petit à petit une activité normale. Je retourne parfois à la prière des malades quand j'en ai l'occasion. Quelle grâce le Seigneur m'a accordée pour moi et pour mon petit garçon. Voilà, ben, le Seigneur aussi guérit le papa pour qu'il puisse s'occuper de son garçon de 3 ans. Merci Seigneur. Je vais encore vous donner un témoignage. Donc Marie Bernadette, elle est venue à la prière des malades le 17 octobre dernier avec un cœur fatigué. Elle disait depuis plusieurs semaines qu'elle allait bientôt mourir. Une parole de connaissance a annoncé la guérison d'un cœur. Marie Bernadette a ressenti une chaleur dans son cœur et en sortant, elle a senti que son cœur avait retrouvé de l'énergie et ça a encore continué dans les semaines qui ont suivi. Donc comme Éric, eh bien le Seigneur, bien que ce soit un cas différent, lui a redonné des forces de vie puisque Jésus-Christ est la vie. Alors en 2012, elle avait aussi des remontées gastriques. Elle a été opérée pour cela, mais ces remontées ont continué de lui brûler la gorge. Donc le même jour où il y a une parole de connaissance pour le cœur, il y a aussi une parole de guérison sur la remontée gastrique. Et depuis, ces remontées gastriques n'ont pas totalement disparu, mais elles ont beaucoup diminué. Autrement dit, elles ne sont plus gênantes comme avant. Voilà, donc Marie Bernadette remercie beaucoup le Seigneur pour ses grâces qu'il lui a accordées. Et maintenant, nous allons accueillir Jésus lui-même, Jésus qui fait des merveilles dans cette prière, pour lui demander de venir à notre secours. Parce que nous savons qu'il a pitié de nous, il connaît notre vie, il sait que nous avons nous aussi besoin de grâce, d'abord de la foi, mais aussi pour certains d'entre nous, pour ceux pour qui nous prions, des grâces de guérison et de libération. Amen.